autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour tenter de nous mettre dans la peau et dans la tête des autres animaux. À quoi peut bien penser un chimpanzé? Que ressent un rat? Comment les poissons communiquent-ils? Pourquoi les abeilles savent compter et les fourmis s'entraider? Que nous apprend le langage des oiseaux? Autant de questions soulevées par une discipline scientifique, voire philosophique en plein essor, l'éthologie. Rencontre avec un pionnier de l'étude des comportements, des capacités cognitives et des émotions des animaux, le professeur Claude Baudouin qui nous ouvre les portes d'autres mondes que le nôtre, autour de la question « À quoi pensent les animaux ?» Bienvenue. Bonjour Claude Baudouin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Je suis ravie de vous recevoir autour de cette question. Autour de cette question abyssale, qui est aussi le titre de votre ouvrage, édité en poche aux éditions du CNRS. À quoi pensent les animaux? Une interrogation qui vous habite, Claude, et que vous avez creusée tout au long de votre vie de chercheur, pionnier et précurseur de l'éthologie. Vous êtes professeur honoraire d'éthologie et de psychophysiologie. Vous avez été l'initiateur et le directeur du groupement de recherche d'éthologie du CNRS, également créateur du premier diplôme universitaire d'éthologie. Vous avez longtemps dirigé une équipe de recherche sur les comportements sociaux et la cognition sociale chez les mammifères pour mettre au jour, entre autres, la communication olfactive des souris ou bien les capacités de reconnaissance des visages des bovins. On y viendra, car votre constat de chercheur, c'est que toutes ces bêtes sont bien loin d'être bêtes.
Oui, effectivement, elles montrent beaucoup de compétences à leur niveau. Et en général, ce sont des compétences qui leur permettent de s'adapter à leur environnement physique, social et aux contraintes quotidiennes auxquelles elles doivent répondre et qui sont le résultat d'une sélection naturelle. Et ce qui n'exclut pas effectivement qu'il y ait des capacités d'apprentissage qui permettent d'expliquer certaines performances. Hein, tout n'est pas inné, il y a des choses qui sont innées.
Les animaux apprennent aussi.
Mais il y a beaucoup d'apprentissage, que ce soit multiples formes d'apprentissage, y compris de l'apprentissage social. On y reviendra à propos des traditions et des proto-cultures ou cultures animales, si on a la possibilité de le faire.
Des cultures animales, on y viendra peut-être, mais en tout cas pour arriver à approcher un peu les cultures animales, la pensée, ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un autre, hein, d'un tout autre, il faut changer de perspective, changer de point de vue et regarder ces animaux, non plus seulement comme des représentants de leur espèce, mais au fond, les considérer comme quoi? Comme des individus? Comme
oui,
des personnalités,
comme,
c'est
comme
ça
des personnalités, hein, tout à fait. C'est un très bon exercice d'ailleurs que de regarder et d'observer les animaux qu'on ne connaît pas du tout.
Par
on
ne
sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Ben, pour ma thèse d'État, il y a fort longtemps, j'avais étudié un rongeur nocturne qui est autochtone donc en France et qui était très peu étudié. Donc ça oblige à une gymnastique parce que qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça veut dire s'il fait ça? Comment interpréter un cri? Comment interpréter une posture? Et s'il marque chimiquement son espace par des comportements de frottement du corps sur le substrat, pourquoi il le fait là et pas là, et ainsi de suite. Donc ça oblige à être extrêmement attentif à l'autre et à découvrir l'autre, être très respectueux de chaque animal et de sa position dans le groupe social, s'il est dans un groupe social. Et il y a un concept extrêmement important qui a été développé au cours des dernières années. C'est le concept de personnalité qui prend en compte des caractéristiques individuelles, qu'elles soient morphologiques, c'est-à-dire la masse corporelle, la physiologie, la température corporelle, mais aussi les comportements. Et on peut
personnalité chez ce rongeur, comme chez des abeilles, chez un chimpanzé.
C'est un concept qui est plus large que celui de tempérament, parce qu'il prend en compte tout un ensemble de traits biologiques caractérisant chaque individu, chaque sujet. sujets, puisque ce sont des sujets, pas des objets, et des objets d'études, mais des sujets actifs. Mmh. Et que ces traits de personnalité permettent aux animaux de s'adapter à leur environnement. Ils sont stables au cours de leur vie et ils sont stables dans différentes situations. Alors, si je peux prendre illustrer avec un exemple, je choisirais le lapin que tout le monde connaît.
Oui,
il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que chez le lapin, il y a des cycles de reproduction très courts, une trentaine de jours, se reproduire comme un lapin, tout le monde connaît l'expression. Et au bout de d'une vingtaine de jours, les jeunes lapins qui ont été déposés dans le nid par la mère vont commencer à sortir du nid. Alors, il faut voir, il y a quelque chose de très particulier, c'est que la mère, quand elle a mis bas, vient rendre visite à ces jeunes une fois par jour pour les allaiter. Et c'est très court, donc il faut faire vite. Donc, il y a un mécanisme qui est inné, d'attraction du jeune pour saisir une mamelle.
Ce qu'on appelle, qu'il y aille vite quand elle arrive, quand elle passe.
Voilà, c'est une phéromone maternelle qui a été mise en évidence il y a déjà un certain temps et qui le jeune va s'agripper tout de suite à la mamelle pour tirer le maximum de lait. Bien sûr, celui qui a les meilleures mamelles est gagnant. Et quand la femelle quitte le nid, les jeunes, certains vont se battre, en quelque sorte, vont lutter pour gagner le cœur de la boule de la portée, pour être au chaud. Et en général, c'est les animaux les plus gros à la naissance qui vont gagner cette position centrale, donc qui vont renforcer leurs compétences de développement, de bon développement. Et ces animaux-là, quand on leur fait passer des tests, donc avant qu'ils ne quittent le nid, c'est-à-dire à moins de 3 semaines, des tests en open field, etc., différents types de tests, on enregistre donc leur performance, mais on les met en regard avec des comportements qu'ils vont présenter plusieurs mois après, lorsqu'on les change, par exemple, d'enclos. Quand on les met dans un enclos où ils peuvent, qu'ils peuvent explorer, les animaux qui étaient déjà avantagés au départ, qui avaient un bon développement, qui étaient les moins timides, etc., vont explorer plus rapidement le nouvel environnement et vont être beaucoup moins réactifs à la présence d'odeurs de prédateurs que ne le sont les autres animaux. C'est-à-dire qu'on trouve une constance.
Et ils sont plus intelligents, plus adaptés, mieux adaptés que les autres. C'est toute la question de la pensée, hein, autour de la question à quoi pensent les animaux, même s'il est finalement quand même impossible de se mettre dans leur tête. Je vous propose tout de même de commencer par nous interroger, Claude Baudouin, à l'écoute du mix « Nos amis les bêtes », signé Hugo Violas.
La première question que je voudrais poser, c'est pas à quoi pensent les animaux, mais est-ce que les animaux pensent ?
On communique, ils communiquent, la vie communique, tout le monde communique, tout le monde dit qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que demain on aura un langage français cachalot ?
Ah oui, un dictionnaire français cachalot.
C'est absurde, c'est une mauvaise piste.
Dans les années 60, les singes vont passer l'épreuve en laboratoire, dite de la tache verte, ce qui permettrait de penser qu'ils se reconnaissent dans un miroir. Quelques temps après, des chercheurs vont se dire, mais tu sais, si les chimpanzés peuvent faire ça, les baleines, elles sont quand même très intelligentes aussi. Et un beau jour, les baleines accèdent à la reconnaissance. Et ainsi, de proche en proche, on va arriver finalement à ce que des animaux, même inattendus, c'est-à-dire par exemple des pies, se reconnaissent très clairement dans le miroir.
Je veux bien être un bonobo. Il y a beaucoup d'animaux que je pourrais être. J'aime aussi être un oiseau. Moi, je trouve ça très intéressant d'être un corbeau, par exemple.
Ce cerveau est capable de performances absolument magnifiques du point de vue cognitif. Ces abeilles apprennent et mémorisent, mais non seulement ceci, elles sont capables d'extraire des règles, d'apprendre des concepts, de compter, de faire même des opérations de mathématiques élémentaires.
Moi, je suis né au milieu des animaux, donc des animaux domestiques, notamment des vaches, en fait. Et je crois que les vaches m'ont beaucoup appris. La manière de réagir, la manière de regarder, la manière d'être en fait.
Qu'est-ce Qu'est-ce que ça veut dire être vache? J'ai envie de vous poser la question, Claude Baudouin, parce que vous avez notamment mis en évidence des capacités assez insoupçonnées chez les vaches.
Oui, on n'a pas l'habitude de considérer les vaches comme des animaux particulièrement cognitifs. Et cependant, ce sont des... On a fait une étude avec Marjorie Coulon, une de mes thésardes, sur la reconnaissance de l'espèce et de la race et des individus, familiers ou non familiers, chez les vaches, en utilisant des images.
C'est-à-dire que les vaches, ce que vous avez montré, c'est qu'elles sont capables de reconnaître le visage de leur congénère, celle qu'elles... Enfin, c'est ça ?
Elles sont capables de différencier, elles préfèrent des vaches, des têtes de vaches en image, à des têtes de chevaux ou de moutons, etc. Elles préfèrent des têtes de vaches familières à des vaches non familières, etc., etc. Donc tout ce qui se rapproche le plus de ce qu'elles connaissent, c'est ce qu'elles vont préférer.
Même sur photo.
Et sur photo. Ah, ouais. Et quand on prend la tête avec différentes orientations, elles sont capables de considérer que c'est le même individu. C'est-à-dire différentes photos sous différents angles de vue, ça va être considéré comme le même individu. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance individuelle affine et des capacités cérébrales complexes permettant la rotation des angles de vue et ensuite la synthèse pour catégoriser. Toutes ces images-là appartiennent à un seul individu.
Et tout ça dans le cerveau d'une vache, d'un bovin, parce que quand on parle éthologie, cognition animale, on pense aux chimpanzés, aux primates, aux grands singes, aux baleines, aux chiens, mais même les vaches. Alors, on ne peut pas se mettre dans le cerveau d'une vache, mais autour de la question à quoi pensent les animaux ? Est-ce qu'une vache, ça pense ? Qu'est-ce que c'est pour vous, la pensée ? On ne peut pas se mettre dans la pensée d'une vache.
C'est clair qu'elle pense, puisque ce sont des animaux sociaux, qui vivent et qui ont des hiérarchies à l'intérieur du troupeau, que la hiérarchie est souvent fonction du niveau d'émotivité des individus, on y revient.
Donc des émotions, niveau d'émotivité.
Bien sûr, le fait d'être peureux, de ne pas s'approcher ou d'avoir une démarche peu assurée par rapport à une autre, eh bien ça va conduire à une relation de dominance subordination entre les animaux. Donc, elles pensent à tout ça, les vaches. Elles pensent à leur place dans le groupe, elles pensent à la nourriture qu'elles aimeraient bien atteindre, etc. Et puis, à la période de reproduction, eh bien, elles pensent à se reproduire. Et pour vivre en groupe social, il faut reconnaître les congénères. Chez les moutons, il y a des travaux qui ont été faits aussi, qui montrent que les moutons sont capables de reconnaître une cinquantaine d'individus au moins, à partir d'images, et que les
un mouton ne ressemble pas à un autre mouton pour un mouton.
Les aires du cerveau qui traitent les informations visuelles de ce type sont les mêmes qui, chez le macaque ou chez l'homme, traitent de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on a en commun chez les mammifères, au moins avec ses caractéristiques de vision, etc., des structures cérébrales qui sous-tendent des comportements qui sont, ou au moins des compétences qui sont semblables ou proches et qui vont ensuite, pour les comportements, être utilisées. Chaque espèce aura son mode d'emploi de la boîte à outils.
Voilà pourquoi aussi, ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, que de s'interroger, de se demander à quoi pensent les animaux. Alors comment se mettre, par exemple, dans la tête et dans la peau d'une abeille? C'est la question que nous avions posée à Martin Jurfin, le plus éminent spécialiste du mini-cerveau et de la méga-cognition de l'abeille. On l'écoute.
Il faut être dans la tête d'une abeille pour savoir à quoi pense une abeille. On n'a que des approximations pour l'instant relatives. Mais j'ai vu le livre de Claude Baudouin et c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup à l'éthologie française, à l'étude du comportement animal. Donc à quoi pensent les animaux? C'est justement le grand pari qu'on voudrait gagner. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est d'être une chauve-souris? C'était une grande question posée par un philosophe à un moment donné. Il répondait non. Il disait non, on ne peut pas savoir parce que le monde de la chauve-souris est tellement éloigné d'une autre que jamais on n'aura quelque part un aperçu de ce monde. Moi, je suis au contraire pas forcément d'accord avec cette affirmation. Je pense qu'on peut concevoir des tests, on peut, comme ceux qu'on essaye d'établir, que vous connaissez en partie, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un animal. Les réponses seront partielles. Jamais on aura la vision complète de ce que pense une abeille, mais on sait, par exemple, qu'elle peut compter. On peut imaginer qu'en allant donc d'une source de nourriture vers la ruche, on peut imaginer qu'elle navigue donc dans cet environnement et qu'elle est en train de compter les marques, les arbres qu'elle passe pour savoir où elle faut atterrir. Donc on peut imaginer avoir des aperçus de ce monde, des sortes de flashs qui intègrent donc ce qu'on sait, mais on est encore loin d'avoir cette réponse à qu'est-ce qu'elle pense vraiment.
Vous en pensez quoi, vous, Claude Baudouin? Parce que quand on écoute Martin Jurfa, on s'imagine presque être l'abeille qui navigue avec d'autres sens, peut-être.
Oui, c'est un type de représentation. Alors, ceci dit, on ne saura pas encore de sitôt si l'abeille sait qu'elle est en train de penser à ce qu'elle voit.
Oui.
Mais
elle n'analyse pas encore.
Est-ce qu'elle est capable de répondre à la question en disant, si on lui pose des questions, si Martin Jurfa lui pose certaines questions, est-ce qu'elle saura dire « je ne sais pas répondre » Voilà, on ne saura pas encore de sitôt, mais je suis un optimiste aussi, et comme Martin, et je pense qu'avec de bons tests, on peut avoir de bonnes connaissances, ou s'approcher en tout cas de ce que peut être on parlait récemment de sensorialité multiple pour définir une perception d'un animal à un moment donné, la chauve-souris par exemple, l'exemple classique, elle va s'orienter la nuit avec l'écholocation, et puis il y a de l'olfaction, et puis il y a le déplacement quand elle se déplace avec les frottements sur son museau, il y a toutes sortes d'informations qui forment peut-être une sorte de forme complexe qu'on ne peut qu'imaginer. C'est un peu comme lorsqu'on parle d'un ciel bleu à un aveugle de naissance.
Oui,
il ne saura jamais exactement ce que c'est qu'un ciel bleu. Nous non plus, on ne saura jamais exactement ce qu'il y a dans la pensée de la chauve-souris, mais on peut s'en approcher.
Et vous, précisément, Claude Baudouin, puisque vous avez quand même étudié, travaillé avec tout le respect qui se doit sur de nombreux animaux que vous considérez comme des individus, comme des personnalités, est-ce qu'il y a un monde animal, un monde intime animal duquel vous vous sentez plus proche, que vous avez l'impression d'avoir approché? Vous nous parlez de la chauve-souris à l'instant, mais...
Chaque fois, vous savez, en tant que chercheur, on est un peu obsessionnel, et quand on travaille ou on étudie une espèce en particulier, parce qu'on ne peut pas tout faire, on est le plus proche. Moi, j'ai rêvé souvent la nuit de questions que je me posais en observant les animaux, je me réveillais, ça y est, je savais tout. Et puis finalement, le matin, au moment de prendre des notes, ça venait pas, quoi. Donc j'avais trouvé, mais ça me travaillait beaucoup très fortement au niveau...
Vinciane Després, qui est une éthologue qu'on a entendue dans le Mix philosophe, a publié un livre très emblématique. Il disait, je me souviens exactement du titre, mais c'était qu'est-ce que répondraient les animaux si les chercheurs leur posaient les bonnes questions.
J'ai lu ce livre.
Et au fond, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, pour poser les bonnes questions aux animaux, il faut être un petit peu dans leur... il faut être un petit peu dans leur monde ou comprendre que c'est avec d'autres sens qu'ils vont pouvoir
Absolument, je pense que l'éthologie, elle permet justement par l'observation fine des animaux et puis de mettre en place des dispositifs d'observation plus expérimentaux qui permettent effectivement de répondre aux questions. Si l'expérience est mal faite, on aura toujours une réponse. Mais elle ne voudra rien dire. Et c'est fréquent en science de voir comment pendant un certain temps les questions ont été mal posées et également comment elles sont posées de manière biaisée. Pendant longtemps, par exemple, on a comparé, on s'est intéressé au comportement animal pour le mettre en comparaison avec l'homme en disant « Ah ben, l'animal, il n'arrive pas à faire ça, mais l'homme, lui, il arrive ».
Ce qui nous rassurait, puisque l'homme était au-dessus
de la hiérarchie. Bien sûr, que ce soit le langage, que ce soit n'importe quel critère. Ça peut être la conscience de soi, ça peut être... La pensée abstraite, ça peut être... Donc on cherchait toujours un fossé qui nous séparait de l'animal. C'est une manière de poser les questions qui était très, très centrée sur l'homme.
On voulait une réponse qui ne nous décentre pas, justement.
Bien sûr. Alors que maintenant, on a plutôt tendance à étudier les espèces animales pour elles-mêmes, parce que c'est à chaque fois, je considère moi les animaux comme un témoignage extrêmement précieux, un héritage extrêmement précieux. Chaque espèce, c'est un ensemble de solutions qui est proposé par l'évolution en termes d'adaptation à l'environnement. Et donc, on a une multitude de solutions qui ont été trouvées, qui constituent un véritable trésor vivant, et donc qui mérite un respect absolu. Et quand on détruit les milieux de vie dans lesquels, pour des questions économiques, je pense aux grands singes à Bornéo ou ailleurs, c'est effarant de voir la perte inestimable de certaines espèces pour simplement faire du profit. Donc, essayons de garder les espèces. C'est le même message que celui de Martin Jurfa. Essayons de garder toutes les espèces, la diversité des espèces, le plus longtemps possible, de façon à les connaître. Il faut voir que toutes les espèces que l'on connaît sont en cours d'évolution. Elles n'ont pas fini. Donc, c'est une responsabilité de les empêcher de continuer à évoluer et de les faire disparaître.
C'est notre responsabilité d'homme pensant qui commence à découvrir qu'il n'y a pas que lui qui pense autour Absolument. De la question à quoi pensent les animaux. Allez, on écoute et on se met même dans la peau d'une chauve-souris qui aime un parapluie sur RFI, c'est Thomas Fersen.
Ah, formidable.
Une chauve-souris aime un parapluie. Un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie. Un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Accessoire, se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de gel. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente. Puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes.
La chauve-souris de Thomas Fersen qui émet un parapluie, ça vous plaît?
Ça me plaît beaucoup, c'est de la poésie et je pense que c'est peut-être les poètes qui peuvent être le plus proches de savoir ce que pensent les animaux.
Et oui, et peut-être que les chauves-souris, elles rêvent des parapluies noirs.
Peut-être,
qui sait. Autour de la question à quoi pensent les animaux, question abyssale qui nous échappera toujours hein, et qui donne son titre à l'ouvrage, à votre ouvrage, Claude Baudouin. Vous citez d'ailleurs le poète René Char, un autre poète. Plus ce qui nous échappe semble hors de portée, plus nous devons nous persuader de son sens satisfaisant. On continue donc ensemble de se demander comment et à quoi pensent les petits poissons dans l'eau cette fois. Piste de réponse du chercheur de l'IRD, Christian Lévesque, spécialiste entre autres des poissons des rivières d'Afrique.
Bah écoutez, sait pas si les poissons pensent. On n'a pas encore été capable de se mettre dans le cerveau des poissons. Mais en tout cas, ils ont des formes de raisonnement et ils savent très vite apprendre à retrouver éventuellement de la nourriture. Hein, je crois que les poissons, quand même, sont capables d'identifier les sources de nourriture et de se mettre, par exemple, à l'aval des radiers parce qu'il y a des insectes qui dérivent. Radiers, ce sont les petits rapides. Hein, voilà. Donc, je crois qu'ils sont capables de reconnaître leurs congénères. Je crois qu'ils sont capables de communication. Et en Afrique, on a plein de poissons qui communiquent entre eux par des signaux électriques, par exemple. Il y a des poissons électriques, mais qui communiquent par des signaux électriques, qui communiquent par des bruits, par des sons, qui communiquent par des phéromones. Hein. Donc, il y a plein de systèmes de communication entre les poissons qui laisse supposer quand même qu'ils ont une certaine forme d'intelligence. Beaucoup de communications sont liées à la reproduction. Évidemment, c'est l'essentiel de la vie, c'est de se reproduire. On a perdu un peu cette habitude en Europe, mais voilà, c'est quand même le principe de la vie.
Et là, c'est le chant du maigre, le maigre mâle que l'on entend, qui essaye d'attirer sa femelle maigre, un son gracieusement mis à notre disposition par un autre éthologue génial, le chercheur Eric Parmentier de l'Université de Liège, en Belgique, l'homme qui écoute les poissons, des poissons qui communiquent donc, et qui ont parfois aussi, savent se reconnaître, une représentation d'eux-mêmes. Claude Baudouin, vous nous entraînez encore plus loin.
Eh oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Là, c'est des travaux classiques, bien vérifiés. Et tout récemment, enfin au cours des dernières années en tout cas, il y a eu tout un ensemble de travaux sur un tout petit poisson de récif corallien qui s'appelle le labre nettoyeur. Et ce labre nettoyeur, sur les travaux de M. Psari, qui est professeur à l'Université de Neuchâtel, qui a montré que ce petit poisson nettoyeur donc, est spécialisé dans le prélèvement des ectoparasites d'autres poissons.
Il les nettoie, ce petit poisson nettoyeur.
Donc il a une station, il a sa station de nettoyage. Il y a d'autres poissons qui ont leur station de nettoyage, pas loin, etc. Et il y a les files d'attente pour se faire nettoyer.
C'est les gros poissons qui attendent.
Les plus gros poissons, c'est une situation de mutualisme. C'est-à-dire, lui, il a à manger et les gros poissons sont nettoyés. Et, mais ce poisson nettoyeur, il a tendance à tricher. C'est-à-dire que ce qu'il aime bien aussi, c'est à manger le mucus des poissons qui viennent se faire nettoyer.
Eux,
ils
n'aiment
pas parce que ça fait mal. Et deux, c'est dangereux pour leur santé parce qu'ils peuvent effectivement attraper des maladies. Donc, s'ils sont des animaux qui circulent simplement, bon, ils vont chasser le labre nettoyeur et puis aller voir une autre station. Mais ça a un mauvais effet au niveau de ceux qui attendent, de l'audience. Et à ce moment-là, ce petit poisson nettoyeur, il va aller chatouiller avec ses nageoires. Il se met au-dessus des poissons et les caresse avec ses nageoires, tout doucement.
Pour les amadouer.
Et il ne triche jamais en plus avec les tout petits poissons qui viennent régulièrement se faire nettoyer. Donc il construit son image. Il construit son image auprès des autres poissons.
Poisson marketing. Il est
extrêmement cognitif comme poisson, visiblement, d'après ses études. Alors, en 2019, il y a une équipe qui a montré, qui s'est dit, c'est un petit poisson cognitif, il est très visuel. On va lui faire passer le test du miroir, qui est un test classique utilisé pour la reconnaissance de soi.
C'est ça, les animaux qui ont une conscience d'eux-mêmes, voilà. Donc les singes.
Voilà, on leur fait une petite marque, c'est un test bien connu, une petite marque pendant qu'ils sont endormis, ils se réveillent, ils se regardent dans le miroir, ils touchent la tâche et pas le miroir. Ça veut dire que l'image, c'est bien leur image à eux, mais c'est pas eux, c'est leur image.
Donc, c'est ça, donc ils sont capables de reconnaître leur image.
De se reconnaître.
Et ça, en gros, de plus en plus d'animaux les primates.
Pas tous.
Quelques oiseaux.
Surtout les grands singes. Et puis, il y a des cétacés, les orques, des dauphins, les cholets oiseaux, il y a des corbeaux, des pies. Mais c'est pareil, à chaque fois, c'est quelques individus.
Qui sont capables de remplir les critères du test. Oui, ça ne veut pas dire que les autres ne se reconnaissent pas.
Mais ceux qui ne se reconnaissent pas, par exemple, on dit chez les oiseaux, ben, il n'y a pas beaucoup pour se reconnaître, mais il faut savoir que la reconnaissance est basée aussi sur les chants, sur les émissions acoustiques et sur de l'olfactif, y compris chez les oiseaux.
Donc ils se reconnaîtraient peut-être avec un test aménagé,
ce que certains ont essayé de faire, mais le test a été décrit comme ça, et Gallup, qui est l'inventeur du test dans les années 70, refuse qu'on déborde un petit peu et qu'on transforme son test.
Revenons-en à notre petit poisson.
Eh bien, quand on lui fait des marques colorées, il va regarder dans le miroir et faire des comportements qui sont inhabituels. Il va nager le ventre au-dessus, etc., comme s'il explorait son corps.
Il se regarde dans le miroir,
on l'a contrôlé, bien sûr, avec des congénères derrière une vitre. Ce n'est pas les mêmes comportements qui sont présentés. Donc c'est bien le miroir qui provoque ça. Et quand la tache est incolore, il n'y a pas de comportement modifié. Quand la tache est colorée et visible, eh bien, donc ils explorent. Si elle est à droite, ils se tournent du bon côté ou à gauche. Ils se soulèvent si elle est sous la gorge. Puis, aussitôt après, ils vont aller se frotter contre le sol et ils reviennent vers le miroir. Donc, dans un premier temps, les auteurs avaient interprété qu'ils passaient le test du miroir. Visiblement, pour que la publication soit acceptée, ils ont modifié un peu le titre et un peu l'interprétation. Ils vont peut-être pas aussi loin. Et l'éditeur scientifique académique de cette publication, c'est Franz De Waal, qui dit, écoutez, plutôt que de... Oui, il y a de la reconnaissance de soi chez ce petit poisson, mais certainement pas une conscience. Plutôt que de la mettre il y a ceux qui ont conscience et ceux qui n'ont pas conscience, on va faire une sorte de continuum. Il y aura plus ou moins de conscience, avec l'homme bien sûr au sommet, ensuite des grands sages, ensuite d'autres espèces, dont ce petit poisson. Les chiens, le cochon, qui a une conscience de lui-même.
Alors, puisque vous parlez de cette expérience incroyable...
Donc, il a une reconnaissance de soi, ce qui ne veut pas dire que c'est le même niveau de conscience que chez les grands singes, ni chez l'homme.
Oui, on l'a bien compris, c'est ce que vous dites, on va y revenir. C'est la question du continuum, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de séparation
absolue.
Mais ces animaux-là ont une forme de conscience.
Au moins chez les vertébrés.
Au moins chez les vertébrés.
Et on a fait passer le test, je crois, le seul test que j'ai lu un papier, c'est une équipe belge, un couple belge qui a travaillé sur la reconnaissance de soi dans le miroir chez les fourmis. Et bon, c'est pas probant, hein.
M'étonnez. Avant d'en arriver aux fourmis, moi je propose de nous arrêter sur ce petit poisson et surtout sur Franz De Waal, donc célèbre primatologue, éthologue, qui a notamment étudié l'empathie chez les animaux. Nous l'avions reçu autour de son ouvrage « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ». Écoutez cet extrait autour d'un bonjour et d'un au revoir.
Dire bonjour, c'est très simple. Les chiens font ça constamment. Les chats sont pas si bien là-dedans, mais les chiens font ça. Ils sont très contents de te voir,
ils font
te
la fête, quoi.
Revoir. Mmh. Oui. Mais dire au revoir, ça c'est plus compliqué parce que pour ça, il faut anticiper la séparation. Et ça, c'est plus complexe. Il y a plein de gens, bien sûr, qui disent au revoir à leur chien ou à leur chat, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont le faire. Mais chez les primates, chez les chimpanzés, par exemple, on a eu une situation, c'était intéressant, on avait une femelle qu'il fallait sortir du groupe régulièrement pour un certain traitement, et chaque fois qu'on le séparait du groupe, elle faisait tout un tour de toutes les chimpanzés sur l'île où elle habitait pour dire au revoir, donner un baiser, et seulement après tout ça, revenait dans le bâtiment.
Donc elle avait la conscience, le sentiment, elle savait bien qu'elle partait et qu'elle voulait dire au revoir.
Oui, oui. Alors, il y a des espèces qui peuvent faire ça, mais pour ça, faire ça, il faut anticiper le futur. Oui.
Incroyable, cette femelle chimpanzée capable de dire au revoir, de se projeter dans le futur.
Se projeter dans le futur, je pense qu'il y a quand même des espèces animales qui sont capables de le faire, hein, puisque chaque fois qu'il y a une stratégie de chasse, par exemple, y compris chez les cétacés ou autres, ça veut dire qu'il y a une coordination, et que la coordination ne se fait pas par le langage, donc elle se fait bien en connaissant ce que les autres sont capables de faire et comment ça va se synchroniser, avec quel résultat. Donc ils se projettent bien dans le futur avant de partir à la chasse aux poissons pour les cétacés ou d'autres petits singes chez les chimpanzés.
Mais de là à dire au revoir à ses congénères.
Ça fait partie des observations qui sont rarissimes parce que c'est vrai qu'il faut bien connaître les groupes. Franz de Waal connaissait bien ses groupes.
Une personnalité, un individu chimpanzé particulièrement sensible.
Oui, parce que dans tous les tests, tout le monde ne fait pas la même chose, n'a pas les mêmes performances. Hein. Chaque personnalité répond ou ne répond pas, est motivée ou n'est pas motivée. C'est extrêmement complexe. Mais là, l'exemple qu'il cite est certainement exceptionnel.
Alors, puisqu'on parle de personnalité, je propose maintenant de nous mettre dans la tête d'un chien, mais pas n'importe lequel des chiens. Un chien héros qui s'est vu récompensé, c'était en avril dernier à la mairie de Paris, où entouré d'autres chiens héros, notre berger belge malinois Eros, a reçu une médaille dans la catégorie chien de recherche de matière illicite. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans sa tête pendant la cérémonie? C'est ce que notre reporter Raphaël Constant a demandé à son maître, le brigadier chef Yanis, maître chien dans la police nationale à Angers. On écoute le maître d'abord et le chien ensuite.
Ça va faire bientôt 8 ans que je travaille avec lui, tous les jours, au quotidien. Il est également chez moi à la maison, donc on partage toutes les journées, toutes les soirées, tous les week-ends ensemble, les vacances. C'est vraiment, il fait vraiment partie prenante de ma vie, quoi.
Et alors, est-ce que vous savez à quoi pense votre chien ?
Je ne sais pas vraiment à quoi il pense, mais je sais qu'il est bien dans sa tête, ça c'est une certitude. Je communique avec lui par la parole, bien évidemment, avec des mots simples. Et lui, il communique essentiellement avec son regard. Tout est dans le regard. Des fois, il me regarde et je sais ses attentes, je sais ses besoins. Des fois, quand il a envie de se promener, eh bien, il vient me voir. Et puis, quand je le regarde dans les yeux, j'ai compris qu'il a envie de se promener. Pareil pour le travail. Ça me sert énormément dans la recherche, quand je suis en recherche avec lui. Parce que des fois, quand il va faire, par exemple, un marquage, qu'il a un produit qu'il a découvert, il va me regarder d'un coup d'œil. Et là, je sais qu'il y a du produit. C'est une certitude.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre chien sait que c'est un héros ?
Je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas s'il sait qu'il va être mis à l'honneur ce soir. Par contre, j'ai la certitude qu'il savait ce matin qu'il allait y avoir quelque chose de particulier. Parce qu'il est venu me voir, il le fait assez rarement. En fait, ce matin, mon réveil a sonné et il était à l'entrée de la porte de ma chambre et il pignait. Il se manifestait par des petits gémissements. Et juste deux, trois fois, je lui ai dit « Oh, ça t'aplace, ça t'aplace », mais il revenait et il le fait vraiment très rarement. Et je me suis dit, il a senti que aujourd'hui ça va être une journée particulière.
Qu'est-ce que tu dis, toi, Eros ?
Quelque chose à ajouter, Claude Baudouin ?
C'est très riche comme entretien. Il y a plus, le fait de partager les choses, être très très proche, ça permet un partage de codes, donc une très bonne communication et un partage certainement de l'affectif.
Les émotions.
Et on a montré chez le chien, justement, par l'imagerie cérébrale, l'IRMF, qui traitait les informations par les hémisphère droite, les informations émotionnelles et l'aspect sémantique des mots par l'hémisphère gauche. Donc, il traite les informations un peu comme nous à ce niveau-là.
Et il est émotionnel comme nous.
Et il est émotionnel comme nous. Et il sent très, très bien. Si le maître lui parle d'une voix triste, il ne va pas venir rapidement. Si le maître est joyeux, il va arriver tout de suite quand on lui donne un ordre. Et on avait, sur le regard... Il y a un papier qui vient juste de sortir dans PNAS, la revue américaine, qui montre que le chien possède un muscle qui permet de relever le sourcil et qui met en évidence le blanc de l'œil aussi. Il y a un autre petit muscle sur le côté. Et alors, c'est le fait d'élargir l'œil et de lever le sourcil, c'est quelque chose qui permet une communication très rapide entre l'homme et le chien, qu'on ne retrouve pas chez le loup. On ne le retrouve pas chez tous les chiens. Chez le husky, par exemple, qui est une race ancienne, on ne le retrouve pas non plus, on ne l'a pas retrouvé.
Mais chez nos chiens domestiques,
le chien domestique, il y a ces muscles qui auraient évolué. Chez le loup, on trouve des petites fibres, mais beaucoup de conjonctifs, donc pas la même puissance musculaire. Et ces mouvements, donc il y a une étude morphologique et puis anatomique et puis une étude des mouvements par un codage très fin de la mimique et qui montre que c'est très très bien perçu, que les chiens sont attirent le regard du maître comme ça et comme c'est aussi les mimiques de tristesse chez l'homme qui impliquent ces mouvements, on a tendance à considérer qu'il est en position de demande et de faiblesse, donc de l'aider.
C'est très malin de la part du chien.
Mais c'est un résultat de l'évolution depuis la domestication par l'homme, certainement, où il s'est différencié du loup, en développant certains groupes musculaires qui sont utiles pour cette communication. Et c'est tout à fait extraordinaire.
Extraordinaire. Alors, juste par simple esprit de contradiction, autour de la question « À quoi pensent les animaux ?», on a choisi d'écouter « Les animaux sont des cons », interprété par les rois de Suède. Sur RFI, fallait le faire.
Les enfants, ils sont fascinés. Il est trop formidable. Mais même un chien d'aveugle sait pas lire quand il y a des travaux. Gros minable, il ira jamais acheter des jouets un samedi avant Noël. Il rangera jamais sa niche. Il videra pas le lave-vaisselle. La honte, il a pas lu jusqu'au bout. Ni pif, ni snoopy. Il ira jamais promener le chien. Puisque c'est lui, les enfants vous aiment bien, mais les enfants c'est pas malin, ils savent pas couper leur viande. Ah, les animaux c'est des cons, à part le facteur cheval qui a fait une jolie maison. Les animaux c'est des cons, sauf bien sûr Thierry l'ermite et peut-être Didier Bourdon. Les zèbres font des trucs contre le réchauffement planétaire. Ben non, ils mettent juste de la crème solaire chelou qui marche une fois sur deux. Est-ce que les bébés phoques font quelque chose contre les crises financières? Ben non, ils s'engraissent en fabriquant des manteaux luxueux. Oh, les animaux, vous êtes des gens sur qui on peut pas compter. Je ferai plus de confiance à un sourd qu'un caniche pour me faire coiffer. Les enfants vous aime bien, mais les enfants c'est pas malin. Et on a plein qui savent pas lire. Les animaux c'est des cons, à part Serge Lama et Edith Piaf qui se servent bien de leurs poumons. Les animaux c'est des cons, et aussi Samantha Fox qui aussi sert bien de ses poumons.
Les animaux, c'est des cons. Morceau évidemment satirique des Trublions, les rois de Suède, sur RFI.
Tout à fait.
Je vous ai vu sourire et plisser les yeux, redevenons sérieux, Claude Baudouin. Nous sommes en votre compagnie autour de la question empruntée au titre de votre ouvrage « À quoi pensent les animaux ?» Comment et jusqu'où sont-ils conscients d'eux-mêmes ? Et d'autres énormes questions que vous avez abordées, notamment dans le dernier chapitre de cet ouvrage et que soulève tout de suite sur nos ondes Carole Châtelain, rédactrice en chef de Science et Avenir.
Être certain qu'un animal ne pense pas à sa mort.
Est-ce que vous avez la réponse ou une réponse, Claude Baudouin ?
Il y a certainement, selon les individus et les espèces et les situations, des façons très diverses dans le monde animal d'avoir une. Je dirais pas une conscience, mais c'est clair que chez les chimpanzés, chez des espèces comme les éléphants, certainement d'autres espèces encore, on parle des corneilles, donc il y a des signes qui témoignent de la réaction des animaux qui sont autour d'un animal qui est mort ou qui va mourir. Donc il y a certainement il y a les phénomènes quand il y a un groupe social et que les animaux sont liés et que les comportements sont inhabituels, il y a forcément des comportements d'attention chez les chimpanzés dont je parle à la fin du livre. Il y a un changement complet de comportement du groupe au moment où une vieille matriarche va mourir. Et les animaux s'occupent d'elle très, très calmement, viennent la voir, etc. Ce qui montre que, de toute façon, il y a beaucoup d'observations hein, en milieu naturel ou en captivité, qui montrent qu'il y a une conscience que l'animal est en train de cesser de vivre.
Jusque-là. Ils ont une conscience d'eux-mêmes et une conscience qu'il faut l'aider, qu'il faut le soutenir.
Et qu'il faut aider, ben, ça fait partie aussi de l'empathie. C'est-à-dire que si l'animal se trouve dans une situation qui est... mais ça va au-delà de l'entraide, ouais, hein, quand l'animal est très connu. Donc c'est... on a apparemment chez quelques espèces, ça a été démontré, je crois, chez les éléphants, chez des cétacés, et chez les grands singes, et chez l'homme, bien sûr, des neurones en fuseau qui permettent d'avoir une impression rapide de l'autre.
Du sentiment de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'empathie.
Du sentiment de l'autre,
hein.
Oui, en quelque sorte. En plus d'autres neurones ou systèmes spécialisés. Et donc... que les animaux, certains animaux aient conscience du fait de mourir ou de passer de l'état vivant à l'état inerte. Mais ça peut demander du temps. Hein. Le deuil peut durer très longtemps. Chez la maman chimpanzé qui va perdre son bébé, va mourir, ben elle peut le garder très longtemps avec elle à l'état de dépouille et continuer à le transporter, etc. Donc, mais là, ça traduit un phénomène d'attachement et de deuil. On m'a posé la question des fois, est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui, c'est clair que les changements de comportement chez ces animaux-là traduisent une tristesse. Alors, est-ce qu'ils ont une représentation de la mort? Personne ne peut répondre.
De toute façon, ce sont des questions, évidemment.
Mais ce sont des questions qu'il faut poser parce que je pense que dans nos sociétés où, effectivement, on a des choix économiques, alimentaires et autres...
quand on se dit que ces animaux pensent que même un poisson peut avoir conscience de lui-même, qu'un éléphant sait que l'autre va mourir, effectivement, on ne peut plus les traiter de la même manière. Est-ce que ça change un homme, chercheur comme vous, Claude Baudouin, on va terminer là-dessus.
Je pense pas que ça... Bon, ça m'a changé, certainement, mais depuis l'enfance, j'aime les animaux, j'ai toujours eu des animaux, mais pas toujours avec respect. Hein. On les piégeait, on les attrapait pour en avoir, voilà. Pour les
vous
voir de près.
Vous viviez avec, mais le respect est venu...
Le respect est venu progressivement, et puis à partir du moment où on observe attentivement, on respecte forcément, on respecte la vie. Je pense que c'est ça, en fait, c'est le respect de la vie, le respect de l'autre, ça va ensemble.
Et l'autre, c'est ça, parce que moi j'ai envie de terminer là-dessus. Votre livre, c'est aussi, c'est à la rencontre de l'autre,
c'est
des
rencontre
tous
de
autres,
l'autre.
De tous les
fait.
Autres
Tout
animaux.
À fait. Je dirais que l'éthologie animale, c'est une bonne propédeutique pour aimer et ses voisins.
Pour aimer ses voisins. Alors je ne saurais trop conseiller de lire votre livre, Claude Baudouin. À quoi pensent les animaux? Livre très inspirant, édité en poche aux édition du CNRS, évidemment, question ouverte, hein, pas de réponse encore, mais pour apprendre à aimer les autres et son voisin aussi. Merci infiniment,
merci
Claude Baudouin, d'être venu en direct dans notre studio sur RFI. Pour creuser cette fois-ci encore plus loin d'autres questions, je vous signale, chers amis auditeurs libres et curieux, si vous êtes à Paris, la semaine prochaine, une série de conférences, spectacles à la recherche de nouveaux mondes. Tiens donc, mais ce sera au Théâtre La Scala à Paris, les 1er et 2 juillet prochains, les plus éminents astrophysiciens seront sur scène pour 2 soirs et vous feront partager leur quête de l'invisible et de l'ailleurs. Des astrophysiciens que nos fidèles auditeurs connaissent bien, Étienne Klein, Roland Lehoucq, Hélène Courtois, Jean-Pierre Luminet. Question à La Scala donc, boulevard de Strasbourg à Paris, les 1er et 2 juillet prochains, à la recherche de nouveaux mondes, qu'on se le dise. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, chers amis auditeurs et internautes. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster, surtout en cette période de Cannes, de Coupe d'Afrique des Nations. Sachez que nous sommes toujours là, en podcast et à volonté, sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Au plaisir de vous retrouver demain, autour de la question comment faire parler, cette fois-ci, les momies, les squelettes, les fétiches et les morts célèbres, en compagnie du médecin légiste et paléo-anthropologue Philippe Charlier,
Charlier, aujourd'hui directeur scientifique du musée du Quai Branly. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à tous les autres. À l'écoute de RFI, le prochain journal est à suivre dans une minute.